vais vous présenter maintenant donc, notre conférencier de ce soir. Gérard François Dumont est né en 1948. Il est économiste et démographe. Il est professeur de géographie à l'Université Paris 4 Sorbonne. Concernant son parcours, donc, il est docteur d'État S Sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Depuis 1976, il est président de l'Association pour la recherche et l'information démographique. Depuis 1980, il est président de l'Institut de démographie politique. Il a été recteur de l'Académie de Nice. Depuis 2000, il est président de l'Alliance Population et Avenir et administrateur de la Société de géographie. Sa spécialité, donc Gérard-François Dumont est spécialiste des flux migratoires et des nouvelles logiques migratoires et de leurs impacts, notamment sur l'identité européenne. Donc, concernant une bibliographie, Gérard-François Dumont a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales, et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Les migrations internationales », paru CDU-CEDES en 1999, « Les populations du monde » chez Armand Collin en 2001, et « Géographie de la France » aux éditions Ellipse en 2003. Je vais donc lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec vous pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Madame, Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir à l'Université de Tous les Savoirs. Même si cet amphi n'est pas plus climatisé que la rue des Saints-Pères, j'espère que nous pourrons passer un bon moment ensemble. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance sur la question des migrations internationales, et sur un ton peut-être un peu provocateur, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il y a quelques semaines avec mes étudiants. J'étais donc en train de leur parler de ces phénomènes migratoires et je leur expliquais qu'un de mes amis revenait d'Algérie et qu'il m'avait dit que dans ce pays, il y avait deux types de comportements. Les Algériens relativement âgés se disaient que tout compte fait, un retour de la France en Algérie pour les aider à se développer, ça ne serait peut-être pas forcément une mauvaise chose. Et les Algériens les plus jeunes ne pensaient qu'à quitter l'Algérie. Et quelques jours après, le président de la République française, Jacques Chirac, se rend en Algérie. Et cette anecdote a été effectivement confortée, puisque vous avez entendu ces acclamations absolument extraordinaires vis-à-vis du président de l'ancien pays colonisateur. Et surtout, nous avons vu et entendu les Algériens dire « des visas, des visas, des visas ». Voici donc poser la problématique des migrations internationales, mais elle recouvre en réalité des formes diverses que nous constatons chaque jour dans l'actualité. Un jour, c'est une entreprise automobile qui décide de construire une usine en Europe orientale et envoie pour installer cette usine un certain nombre de cadres supérieurs ou de techniciens pour le démarrage de l'usine. Le lendemain, ou plutôt hier, c'est le président Bush qui va au Sénégal. Il va au Sénégal, mais s'il a choisi ce pays, c'est aussi parce qu'il y a 40 000 Sénégalais aux États-Unis qui ont émigré et qui jouent un rôle non négligeable dans la vie économique de New York. En ce moment même, c'est la France qui est en train de voter une nouvelle loi sur l'immigration. Et puis, périodiquement, on nous apprend que, malheureusement, des clandestins se sont noyés dans le détroit de Gibraltar. Le lendemain, on apprend que des retraités ont choisi d'aller passer leur retraite en Espagne, bien qu'ils soient de nationalité française. Donc, ces quelques exemples mettent bien en évidence que cette mobilité des hommes, qui est tout à fait contemporaine, elle est aussi l'héritage d'une histoire longue, puisque l'histoire de l'humanité est faite en permanence de migrations qui modifient la géographie culturelle. Alors, ces migrations aujourd'hui, est-ce que l'on peut donner un ordre de grandeur, sachant que les statistiques en la matière ne sont jamais parfaites ? Même un pays comme la France, qui a quand même derrière lui une administration policée depuis un certain nombre d'années maintenant, n'a pas de système permanent d'enregistrement de la totalité de ces flux migratoires. Donc vous imaginez qu'approcher de façon précise des phénomènes migratoires sur l'ensemble de la planète, c'est assez difficile. Néanmoins, on peut donner un ordre de grandeur d'environ 175 millions de personnes qui seraient aujourd'hui des immigrants, ce qui représente environ donc 3,5% de la population mondiale, des immigrants qui se répartissent un peu en trois parties, les émigrants de travail, comme par exemple les Pakistanais qui travaillent en Arabie Saoudite, le rapatriement des familles, donc notamment en Europe et aux États-Unis, et puis les réfugiés. Donc ces phénomènes migratoires qui ont une grande importance ont aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre époque contemporaine, au début du XXIe siècle, les mêmes causes que dans le passé. Et c'est ce que nous verrons d'abord, rappeler quels sont les facteurs fondamentaux qui entraînent des flux migratoires. Mais en même temps, ces flux migratoires contemporains sont profondément modifiés par la globalisation, qui est le thème de ce cycle de conférences. Et donc nous verrons dans un deuxième point comment ces processus de globalisation combinent les migrations de façon nouvelle par rapport à l'histoire de notre planète. Alors d'abord, quels sont les facteurs migratoires classiques ? J'en évoquerai successivement quatre. D'abord, les facteurs politiques ou politico-religieux, puis les facteurs économiques, en troisième lieu les facteurs démographiques, et puis enfin les facteurs composés, parce qu'il n'est pas toujours facile de séparer ces différents facteurs qui se combinent parfois lorsqu'une personne décide de migrer. Alors commençons par les facteurs politiques et religieux. Toutes les pages de l'histoire de nos continents sont pleines d'exemples en la matière et j'en citerai simplement quelques-unes. Prenez le cas de la France, 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, environ 300 000 huguenots quittent la France pour aller en Suisse, en Allemagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans ce qui va devenir les États-Unis plutôt, et donc vous avez là une migration contrainte par une décision politique dans la mesure où ces personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas vivre leur religion comme elles l'entendent. Vous savez que le début de l'immigration européenne vers l'Amérique du Nord est également une migration religieuse. Les 60 passagers du Mayflower appartiennent à une branche, je dirais, de la religion chrétienne qui est particulièrement puritaine et qui considère que l'Europe ne leur permet pas de vivre comme ils l'entendent. Donc à ces exemples historiques, il faut ajouter évidemment l'effet de guerre. 1870, guerre entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne donc conserve l'Alsace, ou plutôt presque la totalité de l'Alsace, puisque le territoire de Belfort va naître à ce moment-là, partie de l'Alsace qui n'a pas été envahie. Et donc un certain nombre de Français, Alsaciens et Lorrains, ne supportant pas de vivre sous le Reich, quittent ces régions, soit pour aller en France métropolitaine, mais aussi beaucoup d'entre eux dans l'Algérie dont je parlais dans mon introduction. Et nous avons ainsi, au fil de notre histoire, de nombreux facteurs migratoires, politico-religieux, qu'ils soient liés aux guerres dans l'ex-Yougoslavie, qu'ils soient liés à des conflits civils comme au Sri Lanka, ou qu'ils soient liés à des décisions politiques, comme lorsque l'URSS décidait d'expulser de son territoire un certain nombre d'intellectuels comme Vladimir Bukovski, ou bien le cas de Virgile Georgiou, qui avait été expulsé et déchu de sa nationalité roumaine, et qui était un cas tout à fait intéressant, disons, par sa catégorie juridique, puisqu'il était apatride, c'est-à-dire que sa nationalité roumaine n'était plus reconnue par son pays et il n'avait pas non plus, il n'y avait pas non plus été attribué la nationalité d'un autre pays. Donc ces facteurs politico-religieux, comment peut-on les résumer ou du moins les comprendre, parce que sinon c'est presque un inventaire, je dirais, historique, presque à la Prévert, qu'on peut faire de ces différents flux migratoires politico-religieux. En fait, nous avons deux éléments qui jouent, des facteurs d'attirance ou des facteurs de repoussement. Nous avons des facteurs de repoussement lorsque des guerres chassent des populations. Nous avons des facteurs de repoussement lorsque des décisions politiques, lorsque le manque de développement encourage des personnes à partir. Et puis d'un autre côté, nous avons des facteurs d'attirance liés par exemple à des décisions politiques. Prenez une des très grandes migrations européennes de ces dernières années, qui a commencé en 1989, c'est l'arrivée en Allemagne de personnes de souche allemande qui vivaient en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Eh bien, si ces personnes de souche allemande ont pu regagner l'Allemagne après l'implosion soviétique, c'est parce que la loi fondamentale de 1949 de la République fédérale Allemagne leur donnait un droit de retour et d'acquisition de la nationalité allemande au bout de 6 mois de retour. Donc cette loi était effectivement un facteur d'attirance permettant à ces populations de regagner le pays d'origine de leurs ancêtres. Autre exemple bien connu, celui d'Israël. Chacun sait que depuis 1948, Israël a développé une politique d'attirance des populations juives, quel que soit le pays d'où elles viennent, et notamment du RSS. Ceci a même, cette volonté d'attirer une immigration, s'est traduit même certaines années par la décision des rabbins d'autoriser des vols aériens, des atterrissages d'avions ramenant des juifs d'ex-URSS le jour du Shabbat. C'est vous dire que la symbolique est extrêmement forte de cette politique d'immigration. Facteur donc d'attirance aussi à travers les lois sur le rapatriement familial. La France, c'est vrai, depuis la Seconde Guerre mondiale, a toujours connu des textes favorisant le rapatriement familial, mais ces textes sont devenus beaucoup plus larges et beaucoup plus ouverts depuis le milieu des années 70, et c'est depuis cette époque-là que l'on a assisté à une croissance importante du rapatriement familial, à tel point qu'aujourd'hui, la première migration vers la France, c'est le rapatriement familial, ce n'est pas du tout l'immigration de travail, comme on pourrait le croire. Autre exemple de facteur d'attirance très intéressant, le cas des États-Unis. Les États-Unis ont complètement changé leur politique migratoire en 1965. Jusqu'en 1965, ils avaient des quotas géographiques extrêmement précis qui défavorisaient en particulier toutes les migrations asiatiques. Et en 1965, les États-Unis changent leur politique, considérant que leur migration doit être mondiale, doit être plurinationale, et donc ils ouvrent les portes de l'immigration autant aux Asiatiques qu'aux autres populations, et même certaines années, ils accordent des visas supplémentaires, par exemple aux ressortissants du Bangladesh, parce qu'ils considèrent que dans leur flux d'immigration, il y a une proportion insuffisante de ressortissants de ce pays. Donc vous voyez que toutes ces migrations politico-religieuses, elles additionnent donc des facteurs de répulsion et des facteurs d'attirance. Mais à ces causes politico-religieuses, il faut ajouter, et c'est mon second point de cette première partie, les facteurs économiques. Il est clair que les déséquilibres économiques ont pour effet de générer des flux migratoires. C'est vrai déjà à l'intérieur des pays, avec par exemple les migrations rurales, c'est bien entendu vrai au niveau international. comparer par exemple des pays qui ne bénéficient pas d'une rente pétrolière et d'autres pays qui bénéficient d'une rente pétrolière, eh bien les seconds attirent une main-d'œuvre dont ils ont besoin, d'autant plus qu'ils ont les moyens de la rémunérer. Et par exemple, en Afrique septentrionale, nous avons un grand pays d'immigration, par le nombre, c'est la Libye, qui attire notamment beaucoup d'immigration égyptienne. De la même façon, si nous restons en Afrique, le pays africain, hormis la Libye, dont la production de richesses par habitant est la plus forte, c'est l'Afrique du Sud. Parce que c'est le seul pays d'Afrique qui est parvenu à fonder son développement sur l'industrialisation et pas uniquement sur une économie de rente. Résultat, eh bien, l'Afrique du Sud est effectivement un pays attirant pour l'émigration africaine depuis plusieurs décennies. Et puis, un autre exemple de facteur économique qui nous permet, je crois, d'approfondir encore mieux cette question, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Tant que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une stabilité politique permettant une sécurité économique sur son territoire, permettant d'attirer des investissements internationaux et de développer le pays, la Côte d'Ivoire a été un pays d'immigration, attirant des immigrants de toute l'Afrique occidentale. Malheureusement, vous savez que les choses ont évolué vers l'insécurité sur ce pays, et donc la Côte d'Ivoire, qui était un pays d'immigration, a une économie maintenant très perturbée par l'insécurité générale et l'insécurité économique qui s'est installée et n'est plus aujourd'hui un pays d'immigration. Donc, ces déséquilibres économiques, eh bien, génèrent inévitablement un certain nombre de flux migratoires, que l'on trouve aussi au moment des grands chantiers. Lorsque la France organise les Jeux olympiques de Savoie en 1992, cela représente la réalisation de grands équipements. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre en France pour arriver à satisfaire ses besoins, et donc on est obligé de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Les entreprises font même appel à de la main-d'œuvre clandestine, et le préfet n'a qu'une solution, c'est-à-dire régulariser ces clandestins, parce que s'il ne les régularise pas, eh bien, les équipements ne seront pas prêts pour la date des Jeux olympiques. Donc, migration économique, et dans ces migrations, il faut ajouter toutes les migrations techniques, c'est-à-dire toutes ces migrations qui sont liées au fait que des systèmes économiques passent de systèmes économiques ruraux à des systèmes économiques urbains et génèrent donc une émigration rurale. L'Italie est un exemple extrêmement intéressant d'un pays qui, face aux mutations économiques, a envoyé beaucoup de main-d'œuvre en France, en Belgique ou en Allemagne ou tout simplement en Suisse. Et de la même façon, ce que nous constatons ces dernières années, c'est une autre émigration dont on parle peu et qui est pourtant très importante, c'est l'émigration industrielle. Parce que nous avions effectivement en Europe, en Pologne par exemple, des pôles industriels extrêmement importants qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'autant de main-d'œuvre compte tenu des progrès des procédés industriels. Et donc vous avez ainsi de la main-d'œuvre qui va chercher ailleurs un emploi, et notamment des Polonais qui vont vers l'Allemagne ou vers l'Europe. Donc voici cités quelques facteurs économiques liés donc à des déséquilibres entre des pays qui ne parviennent pas ou qui ne sont pas assez développés et dans lesquels des populations pensent qu'elles vont pouvoir améliorer leur sort en allant chercher du travail sur un autre territoire. Troisième facteur, les facteurs démographiques. Il est clair que la plus grande migration que le monde a connue depuis ces deux derniers siècles est une migration démographique. Ce sont les grandes migrations de l'Europe vers l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine. Et cette migration, elle est démographique parce qu'elle est liée au fait que du côté de l'Europe, il y avait au XIXe siècle une croissance démographique importante, alors qu'en revanche, en Amérique, il y avait un pays très sous-peuplé, même s'il existait quelques millions d'Amérindiens ou d'Indiens. Et donc, il y avait des possibilités très importantes de territoires à exploiter, et ceci s'est traduit par, je disais, donc cette très grande migration. De la même façon, d'autres pays peuvent se trouver dans des situations de peuplement importants par rapport à leur potentiel agricole. En Algérie, c'est particulièrement le cas de la Kabylie, qui, depuis longtemps, est un pays d'émigration, des apostrophes émigration, justement parce que c'est un pays fort peuplé, bien que montagneux et bien que ne pouvant pas avoir des ressources agricoles très élevées. Et donc, à ces différentiels de croissance démographique qui sont susceptibles donc de créer des flux migratoires, il faut également ajouter les différentiels de mortalité ou de composition par âge. En ce qui concerne la mortalité, l'histoire nous apprend passage tragique de l'Irlande en 1842 avec donc des conditions terrifiantes de mortalité qui entraînaient une émigration irlandaise vers l'Amérique du Nord considérable, tellement importante que la population de l'Irlande aujourd'hui en 2003 est encore inférieure à la population de l'Irlande en 1840, malgré l'augmentation de l'espérance de vie qui s'est déroulée depuis. Et enfin, différentiel de composition par âge et par sexe. Vous savez que nous sommes dans des sociétés où l'attitude migratoire n'est pas forcément la même pour le sexe féminin et pour le sexe masculin. Et toutes mes recherches conduisent à la conclusion que le sexe féminin est beaucoup plus attiré par les lumières des grandes villes que le sexe masculin. Résultat de cette constatation, qui n'est pas une critique, mesdames, eh bien, il faut bien constater qu'un certain nombre de territoires ont des déséquilibres par sexe et se trouve avec en insuffisance de sexe féminin. Et en particulier dans un certain nombre de régions rurales, eh bien les agriculteurs ont beaucoup de mal à trouver, si vous permettez cette formule, chaussures à leurs pieds. Alors, c'est vrai que pour essayer de trouver des réponses à cette question, eh bien certains organismes ont parfois organisé des migrations maritales, par exemple en faisant venir de Mayotte ou de Madagascar des jeunes femmes vers la France. C'est peut-être en chiffres des données anecdotiques, mais qui sont bien aussi significatives d'une autre migration susceptible d'être créée par les différences de composition par âge. Enfin, dernier point de cette première partie, les facteurs composés. Parce que si l'on pouvait toujours savoir précisément, lorsque quelqu'un migre, si la cause est politique, religieuse, économique ou démographique, ce serait trop simple. Et bien entendu, la frontière entre ces différents facteurs est complexe et en réalité, la migration est souvent le résultat de facteurs composés. Prenez une personne qui quitte aujourd'hui un pays d'Afrique subsaharienne, qui traverse le Sahara et qui, via le Maroc, arrive en Europe. Est-ce que sa migration est économique ou politique ? Bien sûr, sa migration, elle est économique, puisque son objectif en quittant l'Afrique subsaharienne, c'est bien d'acquérir des ressources qu'il souhaite pouvoir envoyer à ses compatriotes. Mais en même temps, la migration, elle est bien politique, parce que si le pays en question ne parvient pas à se développer, c'est peut-être justement parce qu'il n'a pas acquis une stabilité politique, parce qu'il a un gouvernement plus ou moins dictatorial ou plus ou moins autoritaire, qui ne permet pas d'encourager le développement du pays. Et c'est la raison pour laquelle l'anglais donne cette fameuse formule pour justifier beaucoup de migrations, « for bread and freedom », pour le pain et la liberté. Prenez le cas des Chinois continentaux qui partaient pour Hong Kong avant qu'Hong Kong revienne à la Chine. Ils allaient à Hong Kong, bien sûr, pour avoir du pain, pour améliorer leurs conditions de vie, mais en même temps, pour avoir la liberté de travailler, la liberté de créer un commerce, la liberté de créer une entreprise artisanale, etc., etc., tout ce qui n'existait pas. De la même façon, et si vous me permettez un autre exemple historique plus délicat, pensez aux Juifs qui quittaient sous contrainte le régime de Hitler. Bien sûr, la cause, elle était politique, hein, avec un système totalitaire voulait aller vers la solution finale. Mais en même temps, s'additionner des causes économiques parce que le fait d'être juif entraînait pour ces personnes l'interdiction d'un certain nombre de professions et donc s'additionner à la fois des risques terrifiants pour la sécurité, mais aussi l'impossibilité en fait de valoriser ses compétences. Donc ces facteurs composés que je viens d'évoquer, qui sont des facteurs donc à la fois politiques et économiques, peuvent également s'opérer par le mariage entre l'économie et le démographique. Pensez à la France après la guerre de 14-18. La situation en termes de population active est catastrophique. La France vient de perdre 1 350 000 personnes, essentiellement de sexe masculin et relativement jeunes. En outre, elle comprend un certain nombre de blessés de guerre qui ne sont pas en état de travailler, par exemple, dans les mines de Lorraine ou du nord de la France. Donc la France est dans une situation à la fois de déficit démographique du point de vue de sa main-d'œuvre et en même temps de besoins économiques pour pouvoir exploiter ces bassins houillers. La solution, vous la connaissez, ça va être notamment la venue de très nombreux Polonais qui vont se substituer à cette insuffisance de main-d'œuvre, et donc nous avons une migration qui est à la fois économique et démographique. Mais nous pouvons également avoir une combinaison entre les trois facteurs économique, démographique et politique. Et je crois que l'exemple peut-être le plus intéressant en la matière est celui de l'ex-Sahara espagnol. Nous sommes en 1975, le régime de Franco se termine en Espagne et donc l'Espagne abandonne le Sahara espagnol qui continuait d'être l'une de ses colonies. Le roi du Maroc, pour bien montrer qu'il considère d'un point de vue géopolitique que ce Sahara, que cet ex-Sahara espagnol et bien marocains organisent la marche verte, donc des centaines de milliers de Marocains du Nord se dirigent pacifiquement, sans grenades, sans fusils, vers l'ex-Sahara espagnol. Comment expliquer un tel type de migration ? D'abord, pour des raisons politiques. Il s'agit bien pour le roi des Marocs d'affirmer l'autorité du Maroc sur l'ensemble de ses territoires. Pour des raisons économiques, il s'agit pour le roi du Maroc aussi de considérer que les éventuelles ressources naturelles de ce territoire peuvent être utiles au développement de l'ensemble du pays. et puis aussi pour des raisons démographiques. Dans l'ex-Sahara espagnol, il y a à peine 80 000 personnes sur des milliers de kilomètres carrés, et donc il n'est pas difficile d'envahir un territoire qui est vide d'hommes. Donc vous voyez ainsi comment ces différents facteurs peuvent se combiner. Alors, à travers les exemples que j'ai donnés dans cette première partie, je pense que vous voyez bien que ces différents facteurs politiques, économiques, démographiques ou combinés s'exercent en 2003 comme ils se sont exercés au fil de l'histoire de l'humanité. Néanmoins, ils s'inscrivent dans de nouvelles logiques migratoires, ce que je vais exposer donc dans une deuxième partie. Et pour bien comprendre ces nouvelles logiques migratoires, il faut accepter de bien comprendre ce que signifie en fait la globalisation, terme qui est souvent traduit en France par le terme de mondialisation et à tort. En réalité, les processus qui traversent notre planète aujourd'hui recouvrent trois phénomènes différents qui chacun ont des effets sur les migrations internationales. Le premier, la globalisation, c'est ce que j'appelle la dimension normative de ces évolutions. C'est l'ensemble des décisions politiques qui ont pour objectif de limiter, voire de supprimer les barrières. Et il faut bien comprendre que même si nous avons tendance à penser globalisation dans le cadre de la planète, il y a aussi des globalisations régionales. Et l'Union européenne est un processus de globalisation régionale, puisque aujourd'hui, dans tous les pays de l'espace Schengen, premièrement, on peut passer les frontières sans rencontrer un douanier. Et deuxièmement, dans tous les pays de l'Union européenne, n'importe quel Finlandais peut venir travailler en Espagne. Il a droit au travail en Espagne sans besoin d'autorisation, puisque l'Union européenne a installé la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Donc vous voyez qu'un certain nombre de décisions comme celle-ci, j'ai exposé celle de l'Union européenne, mais d'autres organisations régionales en prennent de semblables dans les autres continents, facilitent un certain nombre de flux migratoires. Parallèlement, les différents pays prennent des réglementations migratoires qui peuvent faciliter cette logique de la globalisation, à l'exemple des décisions facilitant le regroupement familial que j'évoquais tout à l'heure. Il est évident aussi que ces mouvements migratoires sont facilités lorsque d'autres barrières tombent, et par exemple la barrière monétaire. Il est clair que l'euro installe une unité unique qui facilite les migrations parce qu'elle facilite les comparaisons monétaires entre les différents pays des pays participants à l'Europe. Et plus généralement, la globalisation s'inscrit dans les décisions de libération des marchés financiers. Vous savez parfaitement, un certain nombre d'entre vous ont sans doute connu, il y a 35 ans, des cartes de contrôle d'échange. On ne pouvait même pas aller en Espagne sans avoir sa carte de contrôle d'échange avec un visa qui vous autorisait à sortir de France, pas plus de tant d'argent pour aller en Espagne. La globalisation a libéralisé les marchés financiers et les transferts financiers, et donc a facilité le transfert d'argent des immigrés vers leur pays d'origine, vers leur famille d'origine. Et donc, tout l'ensemble de ces décisions joue un rôle très important dans la facilitation des mouvements migratoires. Prenez un autre exemple. Le rideau de fer était une frontière migratoire. À partir du moment où les pays derrière le rideau de fer ont fait comme choix d'avoir une économie ouverte, s'inscrivant dans l'échange international des marchandises, des biens et des personnes, eh bien, nous avons eu l'ouverture aussi d'une frontière migratoire et la venue d'un certain nombre de personnes d'Europe orientale en Europe occidentale, alors que jusqu'en 1989, elles se comptaient sur les doigts de la main et cette mobilité était exceptionnelle. Donc, premier élément des nouvelles logiques migratoires, l'ensemble des décisions de globalisation qui sont prises à l'échelon des États, à des échelons régionaux comme l'Union européenne, ou bien à l'échelon international dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et nous le voyons très bien à l'exemple des migrations chinoises. Tant que la Chine était un pays avec une économie fermée, il n'y avait pratiquement pas d'émigration de la Chine. Depuis que la Chine a décidé de devenir une économie ouverte, depuis que la Chine a décidé d'entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, nous commençons à voir une mobilité des Chinois vers l'étranger. Deuxième facteur, l'internationalisation. Là, c'est un facteur qui, dans une certaine mesure, était un peu imprévu. C'est-à-dire que lorsque nous organisons l'Union européenne, lorsque les États-Unis décident de participer à une ouverture beaucoup plus grande des marchés à travers le GATT ou l'Organisation mondiale du commerce, personne ne sait que de très nombreux moyens techniques vont grandement faciliter l'ensemble de ces échanges et notamment les flux migratoires. Prenons un exemple récent que la France a vécu il y a quelques mois à la suite d'une enquête policière. Dans le sud de la France, les policiers ont trouvé dans de nombreuses exploitations agricoles des Thaïlandais clandestins. Donc des Thaïlandais qui quittaient la Thaïlande par avion, qui étaient à Paris le lendemain avec un visa de tourisme et le surlendemain clandestin dans une exploitation. Il est évident que ce phénomène d'une migration clandestine de Thaïlande en France, constaté en 2003, n'était pas possible il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, la durée des transports aériens entre la France et la Thaïlande était au moins le triple de ce qu'elle est aujourd'hui, et donc elle rendait beaucoup plus coûteuse pour les trafiquants de clandestins ce genre de construction réticulaire. De la même façon, lorsque des entreprises françaises voulaient commercer avec la Corée du Sud, il y avait 24 heures d'avion. Aujourd'hui, il y a 13 heures d'avion. Donc, il est possible, je dirais, de dormir dans l'avion, si on sait dormir dans un avion, bien sûr, et d'être frais le lendemain, malgré le décalage horaire, pour pouvoir créer une filiale commerciale ou créer des activités économiques avec la Corée du Sud. Donc, nous avons un certain nombre de moyens matériels qui ont facilité grandement les flux migratoires. Prenez le cas du Sri Lanka, lorsque l'on va en Suisse et qu'on croise des réfugiés du Sri Lanka. Ils ont mis moins d'une journée à arriver. Il y a 50 ans, un Sri Lankais qui voulait quitter le Sri Lanka compte tenu du conflit civil dans le Sri Lanka, qui s'appelait alors Ceylan, le mot était peut-être plus joli, du moins pour nous, eh bien, il ne pouvait pas être 24 heures plus tard se retrouver en Suisse. Donc, des progrès matériels qui ont réduit l'espace-temps et facilité la migration. Mais également des progrès immatériels plus récents. Je veux parler de l'Internet, je veux parler de la téléphonie mobile. Lorsque un jeune d'un pays dont le développement ne se fait pas souhaite partir loin pour essayer d'améliorer son sort, de trouver un travail afin d'envoyer des revenus à sa famille. Sa famille, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, pouvaient être tentés de le retenir par crainte d'avoir difficilement des nouvelles de cette personne. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a la téléphonie mobile et donc il y a la possibilité beaucoup plus aisée d'informer sa famille de son circuit migratoire, de la façon dont évolue sa propre histoire, et puis il y a le courrier électronique. Et la téléphonie mobile a justement fait que le fait que la poste ne marche pas dans un certain nombre de pays n'a plus de conséquences dommageables pour faire circuler les informations. Donc cette rapidité de l'accès à l'information développe considérablement les flux migratoires et nous le voyons notamment à l'occasion des opérations de régularisation. Dès qu'un pays d'Europe organise une opération de régularisation de ses clandestins, eh bien aussitôt des clandestins d'autres pays d'Europe se précipitent dans le pays en question pour essayer de profiter de l'opération de régularisation, sachant, et là nous sommes dans le processus de globalisation, que la régularisation d'un clandestin en Espagne vaut, bien entendu, pour l'ensemble de l'espace Schengen. Donc toutes ces techniques qui sont éventuellement utiles aux individus, elles sont aussi profondément utilisées par les mafias qui organisent les réseaux commerciaux, mafieux, pour gagner de l'argent, je dirais, sur le dos des clandestins. Et donc, nous voyons aussi que cette évolution a, je dirais, un revers avec des organisations internationales qui abusent d'un certain nombre de clandestins, ce qui a donné lieu parfois à des situations catastrophiques, comme nous l'avons constaté il y a quelques semaines avec tous ces clandestins qui se sont noyés au large de la Tunisie. L'autre élément important de ces évolutions de l'internationalisation, c'est-à-dire que le fait que lorsqu'on vit à un endroit donné, on peut continuer d'être en relation complète avec son pays d'origine, c'est bien entendu à la fois le développement des échanges et le développement des systèmes de télévision. Prenons un exemple. Certains d'entre vous ici connaissent peut-être le plateau de Billevaches, qui se trouve donc au nord de la Corrèze et au sud de la Creuse, donc dans le Limousin, et qui paraît une zone loin de tout. Aujourd'hui, eh bien, je dirais une Chinoise peut venir habiter sur le plateau de Billevaches. Du plateau de Billevaches, elle pourra regarder tous les jours la télévision chinoise sans jamais regarder une télévision française, et elle pourra même, par les circuits de vente par correspondance, ne se faire venir que de la nourriture chinoise. Donc vous voyez qu'elle peut continuer à vivre selon ses habitudes, à la fois alimentaires, informatives et autres, malgré un lieu de domicile totalement différent de celui de son pays d'origine. Alors, troisième point de ces nouvelles logiques migratoires, donc après la globalisation et l'internationalisation, c'est la mondialisation au sens propre du mot, au sens étroit du mot. Il faut bien comprendre que, en réalité, la mondialisation, c'est le fait que les entreprises ont dû s'adapter à la globalisation et à l'internationalisation. Ce que je viens de dire peut parfois surprendre, parce qu'on pense souvent que ce sont les entreprises qui ont été les grandes décideurs des processus de globalisation. Et pourtant, c'est le contraire. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, lorsque le gouvernement français, lorsque les hommes politiques français décident en 1957 de signer le traité de Rome, quelle est la position des entreprises françaises? Quelle est la position de l'ancêtre du MEDEF, le CNPF? Eh bien, il est contre. Il est contre l'ouverture économique des frontières parce qu'il considère que les entreprises françaises seront incapables de résister à la concurrence des pays étrangers. Et de la même façon, dans les grands processus de globalisation, eh bien, les entreprises se trouvent souvent en grande difficulté, soit elles font faillite, ce qui est le cas de la Paname, parce que l'idéal pour une entreprise, c'est d'avoir un marché captif, une clientèle captive, et de pouvoir avoir un bon bénéfice. Elle n'a pas du tout envie d'avoir de la concurrence, une entreprise. Donc la Paname a disparu, et vous savez que de très grandes entreprises, comme IBM, ou comme Renault et Peugeot, ont failli déposer le bilan en raison des décisions de globalisation. Donc la mondialisation, ce sont l'ensemble des décisions des entreprises visant à répondre en tout lieu et sans discrimination de délai et de prix aux spécificités de la demande. Donc les entreprises sont à la fois tenues de penser local, c'est-à-dire de satisfaire des marchés locaux qui ont des habitudes en matière de consommation, en matière culinaire, et en même temps, elles se doivent de penser mondial parce que leurs fournisseurs peuvent être mondiaux, parce qu'une entreprise qui a besoin d'une machine-outil, elle ne va pas regarder que les fabricants français ou européens de machines-outils, mais elle va examiner de par le monde qui peut proposer des machines-outils, quelle que soit sa nationalité. Et de la même façon, en aval, eh bien, l'entreprise, elle va être obligée d'aller sur les marchés concurrentiels parce qu'il faut qu'elle réponde aux offensives concurrentielles de ses concurrents. Et ceci conduit à des migrations à la fois de formation et à ce que j'appelle des migrations entrepreneuriales, c'est-à-dire au fait que les entreprises vont envoyer des cadres à l'étranger ou des techniciens pour créer des filiales, filiales de production ou filiales de commercialisation, et donc que nous avons des flux permanents de personnes liées à l'activité économique, liées aux stratégies mondialisées. Alors pour résumer, ce deuxième point, c'est-à-dire ces nouvelles logiques migratoires, je vais vous proposer un exemple que vous avez peut-être vu comme moi dans le métro ces derniers jours. En effet, j'ai vu une publicité du département fédéral d'immigration américain. Ce département fédéral d'immigration américain dit la chose suivante, 55 000 visas distribués. Vivez, travaillez, étudiez aux USA. Préinscription et demande de dossier de candidature, etc. Cette publicité encourageant donc des personnes à venir retirer un dossier pour éventuellement aller vivre, travailler et étudier aux États-Unis. Ce genre de publicité entre bien dans les trois logiques que j'ai évoquées. D'abord, la logique de globalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce genre de publicité peut s'adresser à la majorité des pays du monde parce que ces pays ont décidé de lever la plupart de leurs barrières, par exemple en adhérant à l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième point, l'internationalisation. Je ne vous l'ai pas lu, mais sur cette publicité, on vous donne soit un numéro de téléphone, soit un site internet. Autrement dit, vous pouvez récupérer le dossier de candidature pour immigrer aux États-Unis par internet et le retourner par internet. C'est-à-dire que vous habitiez sur le plateau de Mille Vaches ou à côté de l'ambassade des États-Unis à Paris, vous êtes exactement dans la même situation. Et donc, on a des outils de l'internationalisation qui font que, quel que soit votre lieu d'habitation, vous êtes dans la même situation pour pouvoir éventuellement solliciter cette demande. Et puis enfin, la mondialisation. Vous voyez que les universités américaines et les entreprises américaines, on n'est pas obligé d'être d'accord, on est bien obligé de le constater, résonnent mondialement. Venez étudier aux États-Unis. Cela veut bien dire que les universités américaines considèrent que leur sphère de recrutement d'étudiants, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais c'est le monde entier. Ils considèrent qu'ils sont aptes à former des étudiants, quelle que soit leur origine démographique, leur origine géographique. Et de la même façon, eh bien, venez travailler, dit l'affiche, aux États-Unis. Cela veut dire aussi qu'il y a des entreprises américaines qui veulent recruter des personnes ayant des origines géographiques différentes, parce qu'elles considèrent qu'une entreprise, pour penser mondiale, pour agir dans la mondialisation, a besoin de personnel relevant de cultures et d'origines différentes. Donc vous voyez que cet exemple, vu dans le métro il y a 3 jours, symbolise bien ces nouvelles logiques migratoires. Et je voudrais donc, en conclusion, souligner combien la combinaison des facteurs migratoires classiques que nous avons vus dans la première partie et des nouvelles logiques migratoires multiplie les types de migration. Elle rend possible des cheminements de plus en plus complexes. Et l'exemple que je donnais de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe est un exemple relativement nouveau. Les ressortissants d'Afrique subsaharienne vivant en Europe étaient extrêmement peu nombreux il y a une 30aine d'années et aujourd'hui atteignent des chiffres qui augmentent chaque année en utilisant comme espace de transit le Maroc ou la Libye. Donc ces migrations, vous voyez qu'elles structurent à la fois les pays de départ et les pays de destination. Mais c'est vrai qu'elles sont bien quand même deux natures principales, selon qu'elles sont volontaires ou selon qu'elles sont contraintes. Il serait souhaitable que toutes les migrations soient volontaires. Malheureusement, il y a des guerres, malheureusement, il y a des conflits civils, et malheureusement, il y a donc à craindre qu'il y ait à l'avenir aussi des migrations forcées, sachant, pour revenir au cas de l'Afrique, qu'il y a beaucoup plus de réfugiés politiques vivant en Afrique qu'ayant quitté l'Afrique pour des pays du Nord. Dans tous les cas, donc, ces migrations du XXIe siècle s'inscrivent dans ces logiques de globalisation, internationalisation et mondialisation. Je crois en conséquence que l'important, c'est de bien comprendre ces mécanismes parce qu'il appartient à la fois aux pays concernés et aux organisations internationales de prendre en compte ces réalités afin d'essayer de prévenir les migrations forcées et de permettre les migrations volontaires qui s'inscrivent dans des logiques de partenariat utiles au développement et à la paix de la planète. Merci.
Je voudrais vous proposer 4 cas qui entrent dans d'autres logiques. Premier cas, le tourisme. Deuxième cas, les sociétés où la population extérieure est supérieure à la population intérieure, cas des Basques, des Corses, etc. Troisième cas, les transplantations ethniques, par exemple les Hmong du Vietnam ou du Laos. Quatrième cas, les migrations climatiques. Actuellement, des îles du Pacifique ou de l'océan Indien sont en train d'émigrer parce qu'elles sont submergées par l'élévation du niveau de la mer. Et quand ça atteindra des pays comme le Bangladesh et quelques autres, je me demande quelle est la préparation et à quoi servent les gens qui parlent de migration.
Je n'ai pas compris la fin de la question. Et je crois qu'à l'exception du premier cas, les 3 autres cas rentrent totalement dans la conférence que je viens de donner. C'est vrai que je n'ai pas évoqué le tourisme, puisque là, il s'agissait des migrations de domicile dans l'exposé que j'ai présenté. En revanche, lorsque vous évoquez la question des diasporas, puisque c'est celle que vous évoquez à travers, par exemple, la migration libanaise, eh bien, ceci est bien lié aux facteurs que j'ai évoqués. La migration libanaise est liée largement à la guerre qui s'est produite au Liban et qui a duré plus d'une quinzaine d'années et qui a généré donc un certain nombre de migrations. De la même façon, nous avons en France un certain nombre de descendants d'Arméniens qui ont été obligés de quitter l'Arménie dans les conditions que vous savez. Les transplantations ethniques sont souvent des décisions politiques. Les transplantations ont été extrêmement importantes en Europe. Je voudrais simplement rappeler les accords de Lausanne des années 1920 qui ont contraint à la migration 1 500 000 Grecs qui vivaient en Asie mineure vers la partie donc européenne de la Grèce et environ 500 000 Turcs qui ont été contraints de quitter la Grèce pour l'Asie mineure. Ceci entre tout à fait dans les logiques politiques que j'évoquais tout à l'heure.
Avez-vous une importance quantitative des flux migratoires en Europe dus à la mise en place de Schengen ?
Alors, les flux migratoires en Europe dus à la mise en place de Schengen se traduisent en fait par deux types de flux. Il y a d'une part donc les flux de domicile, mais il y a aussi tous les flux, je dirais, économiques permis par la facilitation des transports. Donc, en l'espèce, on a des données partielles pour un certain nombre de pays qui permettent néanmoins de confirmer quand même une règle générale que j'aurais pu rappeler lors de mon exposé. En fait, les gens, quels qu'ils soient, souhaitent vivre et travailler au pays. C'est-à-dire que c'est quand même très rare les personnes qui volontairement migrent définitivement. Je ne parle pas des migrations pour une formation ou d'une migration pour quelques années pour une entreprise. Et donc c'est vrai qu'en ce sens-là, eh bien, les Italiens préfèrent travailler en Italie, les Français en France, les Espagnols en Espagne. Et en ce sens-là, c'est vrai que Schengen, compte tenu de cette logique-là, n'a pas généré des millions de mouvements migratoires. Mais Schengen a néanmoins largement facilité les flux migratoires à l'intérieur de l'espace considéré.
En particulier de l'Europe, est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur la situation à venir ? Parce qu'à ma connaissance, l'Europe est la seule zone géographique dans le monde qui va voir sa population décliner dans les décennies qui viennent. Est-ce que ça ne conduit pas à un changement d'attitude nécessaire, à une politique d'immigration qui n'est pas à l'heure actuelle dominante en Europe ?
Alors vous posez là une question fondamentale. Effectivement, lorsque nous regardons les données démographiques actuelles, il y a un seul continent sur cette planète qui a plus de décès que de naissances, c'est l'Europe. Donc l'Europe a un mouvement naturel négatif, et si la population de l'Europe continue d'augmenter, c'est uniquement en raison de l'apport migratoire. Faut-il néanmoins considérer que cet affaiblissement relatif démographique de l'Europe ne pose aucun problème puisque par un système de vases communicants, eh bien, il suffit d'aller prendre les hommes là où il y en a pour satisfaire nos propres besoins. Et c'est là que nous avons eu droit notamment à un rapport des Nations Unies à ce sujet sur les migrations de remplacement qui nous donnait, qui avait évalué exactement le nombre d'immigrants qui devaient arriver en Europe pour satisfaire les besoins du vieux continent. Et l'on arrivait à des chiffres tout à fait extraordinaires, du genre 200 millions, 300 millions, etc. Mais au-delà des données quantitatives, je voudrais surtout attirer votre attention sur l'aspect moral et efficace de cette question. En réalité, il faut bien comprendre que lorsque le chancelier Gerhard Schröder dit « Voilà, j'ouvre 20 000 visas pour des informaticiens indiens », c'est une attitude extrêmement égoïste. C'est une attitude égoïste parce que cela veut dire que je prends des Indiens qui ont été éduqués et formés en Inde, donc dont le coût d'éducation et de formation a été assuré par l'Inde. Je les attire vers l'Allemagne comme si l'Inde, pour son propre développement, n'avait pas aussi besoin de ses informaticiens. Donc si l'attitude de l'Europe, Ça consiste à prendre ailleurs dans le monde la main-d'œuvre dont elle a besoin. C'est une attitude totalement égoïste. Si l'attitude de l'Europe, ça consiste à dire, eh bien, nous risquons de ne pas avoir de médecins, donc nous prenons tous les médecins qui sont en Afrique, cela veut dire qu'évidemment, nous allons dépouiller le système sanitaire africain. Donc je crois qu'il faut une approche complètement différente de cette question si on veut contribuer à la paix et au développement de la planète.
Oui, moi, il y a quelque chose qui me gêne quand on parle de flux migratoires, parce qu'il me semble qu'ils sont de deux catégories. Quand vous parlez de l'affiche des États-Unis, moi, ça me donne un peu le frisson, parce que je pense, je sors du CNRS pour être remplacée par des CDD, qui seront très contents de voir cette affiche, je pense, pour aller aux États-Unis. Je veux dire, à l'inverse de ces propositions alléchantes, il me semble qu'on fait semblant de ne pas vouloir d'une certaine immigration clandestine qui, elle, fait un autre type de travail, peut-être moins coté dans les couches moyennes, mais dont les pays européens ont extrêmement besoin. Votre exemple du sud de la France avec ses cultivateurs thaïlandais en est la preuve. Et là, j'évoque même pas la prostitution. Donc ma question est, qu'en est-il du droit du travail international?
Effectivement, c'est la question que nos politiques ont améliorée, sinon à résoudre. C'est-à-dire qu'il leur appartient de construire également une Europe sociale. Une Europe sociale, ça veut dire une Europe qui ne retourne pas vers des systèmes qui sont pas très loin des systèmes de traite, étant donné la façon dont les comportements se constatent. Vous savez, on est toujours l'immigrant de quelqu'un. On est dans une situation, pour vous donner un autre exemple intéressant, lorsque vous visitez des villes, il faut toujours regarder deux types de professions, les gardiens d'immeubles et les personnes sur les chantiers de bâtiments et des travaux publics. Bon. Donc, en France ou en Allemagne, vous connaissez la réponse. Bon. Mais si vous allez en Pologne, qui sont les gardiens d'immeubles et qui voyez-vous sur les chantiers de travaux publics? Eh bien, ce sont des Russes, ce ne sont pas des Polonais. Donc, c'est vrai que là, on a des logiques migratoires qui sont liées à l'état d'esprit propre des professions. Mais ceci peut évoluer. Nous avons eu en France une grande entreprise de travaux publics qui a complètement changé, du moins la culture des travaux publics, et qui a refusé justement de continuer ce système de turnover, parce que la seule solution de faire progresser aussi une profession, c'est qu'il y ait une certaine stabilité du personnel.
Oui, je voudrais poser une question quand même sur quelque chose auquel on ne fait jamais allusion, à savoir qu'en Europe, la plupart des pays d'Europe sont très peuplés. Si vous prenez la Belgique ou les Pays-Bas, il y a plus de 200 habitants au kilomètre carré. À part le Nigeria en Afrique, qui est un pays extrêmement peuplé, les pays africains sont plutôt sous-peuplés. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de déficit démographique en France ou dans les pays européens, mais ça va devenir infernal, on ne pourra plus circuler. En Belgique, par exemple, ils sont incapables de s'auto-alimenter. Ils n'ont plus de terrain. Donc, je trouve un peu bizarre qu'on parle toujours de ces problèmes migratoires, on manque de gens, sachant que dans certains pays d'Europe, il y a vraiment de la surpopulation déjà.
Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que la notion de surpopulation est une notion totalement relative. Vous avez cité le cas des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, effectivement, de toute façon, ils sont en dessous du niveau de la mer depuis des siècles et des siècles. C'est un pays qui ne survit que parce que ses populations ont souhaité créer des polders techniques qu'ils ont ensuite transmis dans certaines régions françaises. Mais vous avez tout à fait raison de souligner le fait que l'Afrique est un continent très peu peuplé. En ce qui concerne l'Europe, bon, vous avez cité l'exemple du Benelux. C'est vrai que vous avez cité l'exemple donc, de la partie européenne qui est la plus peuplée. Mais nous avons en Europe de nombreuses régions qui sont très peu peuplées et qui aujourd'hui sont même d'ailleurs en dépopulation. Donc je dirais que ce que vous avez cité, c'est plutôt même le contre-exemple par rapport à la réalité européenne moyenne.
On observe que la population a tendance à se concentrer dans les zones côtières. On parle de la bande des 50 à 500 km. Que pensez-vous de cet effet de recherche des zones côtières sur les flux migratoires?
La localisation des villes n'est jamais le fait du hasard. Donc, les hommes, en général, ont choisi comme lieu pour installer leur ville, des sites qui facilitaient les échanges. Quels sont les lieux qui peuvent faciliter des échanges? Eh bien, par exemple, des sites où on a une confluence de plusieurs rivières ou fleuves. Nous avons un exemple magnifique en France avec Lyon. Lyon n'est pas un lieu qui a été choisi par hasard pour y localiser une grande métropole. Nous avons aussi un certain nombre de villes qui se trouvent à la lisière des montagnes et des vallées et qui assurent, si vous voulez, les réseaux d'échanges entre ce que produisait l'économie montagnarde et ce que produisait l'économie des vallées. De la même façon, il est évident que le bord de mer est un lieu d'échange extrêmement important entre tout ce que peut produire l'arrière-pays et qu'il faut véhiculer vers d'autres régions. Et donc il y a eu toujours, dans toute l'histoire de l'humanité, ce souci de choisir ce type de localisation. Ce n'est pas du tout un phénomène propre à notre 21e siècle. Alors que ce soit surajouté aujourd'hui d'autres éléments, et notamment des éléments sur la façon de vivre, des éléments liés au plaisir des bains de mer, liés à l'héliotropisme positif, c'est exact. Mais c'est un phénomène qui est lié, si vous voulez, à la réalité économique de notre planète. Il entraîne forcément une contrainte. C'est-à-dire que pour que ces lieux de vie continuent d'être des lieux qui soient agréables, cela suppose effectivement des politiques d'environnement extrêmement sérieuses. Et il suffit d'ailleurs de comparer deux ports. On a des ports qui sont bien aménagés et puis d'autres qui, malheureusement, créent des pollutions extrêmement importantes. Donc c'est un phénomène qui ne peut pas être modifié de toute façon parce qu'il correspond à des logiques. Et d'autre part, il faut bien comprendre que les logiques de peuplement sont des logiques qui s'inscrivent dans la longue durée. Quand Madame évoquait le peuplement de l'Europe tout à l'heure, si je me porte 20 siècles en arrière, quels sont les trois principaux foyers de peuplement il y a 20 siècles? C'est l'Europe, le sous-continent indien et la Chine. Quels sont les trois principaux foyers de peuplement aujourd'hui sur la Terre? C'est l'Europe, le sous-continent indien et la Chine. Donc, si vous voulez, il y a des logiques de peuplement qui s'inscrivent dans la longue durée, à l'homme de les gérer pour que l'environnement soit satisfaisant.
Gérard François Dumont, merci beaucoup.